Accent d'Europe, Catherine Roland.
Vendredi 10 mai, vers 20h, un cortège de 30 000 personnes remonte le boulevard Saint-Michel. Cohn-Bendit donne la consigne. Puisque la police occupe la Sorbonne, d'occuper le quartier latin autour de la Sorbonne.
Bonjour à tous, Accent d'Europe vous invite aujourd'hui dans un plongeon un demi-siècle en arrière, au printemps 68, un printemps qui a mis toute l'Europe et les États-Unis en ébullition. En France, le 3 mai 68, c'est l'intervention de la police dans la Sorbonne occupée qui met le feu aux poudres. La contestation va s'étendre alors à toute cette jeunesse du baby-boom et ces manifestations étudiantes se transforment en l'un des événements sociaux les plus importants de l'histoire française du XXe siècle, comme l'analyse Patrick Rothman, écrivain et historien, et surtout témoin privilégié de l'époque. Patrick Rothman n'avait pas 20 ans, il étudiait l'histoire à la Sorbonne. Il nous raconte d'abord ce qui a provoqué son engagement.
Moi, ce qui m'a politisé à l'époque, c'est la lutte contre la guerre du Vietnam. Donc il y avait, pas simplement en France, pour le coup, dans toute l'Europe, des manifestations très virulentes contre la guerre du Vietnam. Mais après, si on regarde mai 68, ça démarre vraiment contre ce qu'on appelait la répression policière. C'est-à-dire le fait que le 3 mai, sur le boulevard Saint-Michel, la police a eu la main un peu lourde. Surtout le fait qu'il y ait eu 4 étudiants qui ont été condamnés à de la prison ferme. Ça a provoqué un mouvement de solidarité énorme, ce que Edgar Morin a appelé la commune étudiante, qui a fait descendre de plus en plus d'étudiants dans la rue tous les jours en réclamant simplement la libération des étudiants emprisonnés et la libération par les forces de police du quartier latin. Après, ça s'est envolé.
Oui, alors après, ça s'est envolé, effectivement, parce que alors, le titre de votre bande dessinée va très loin. Hein. La veille du grand soir, est-ce que vraiment on y croyait au grand soir, justement, à cette époque ?
Le titre est évidemment ironique, parce que c'est la veille d'un grand soir qui ne viendra jamais, heureusement d'ailleurs. Mais pour bien comprendre ce qui se passe en 68, il y a cette révolte étudiante, ou disons cette crise de la jeunesse, qui est portée par un phénomène purement démographique, c'est-à-dire qu'il y en a 8 millions entre 16 et 25 ans, qui revendiquent haut et fort leur place dans la société, qui font craquer la vieille université, qui réclament la libération sexuelle, de secouer cette chape de plomb de l'autorité du gaullisme finissant, enfin bref.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté, une quête de liberté chez toute cette jeunesse, ce baby-boom ?
Bien entendu, c'est le sens profond du mouvement de 68, une soif de liberté. Il y a quelque chose de rimbaldien dans la révolte de 68, une aspiration à un autre monde, à une autre vie, à vivre autrement. Et puis il y a, sur cette révolte étudiante, vient se greffer un deuxième phénomène totalement inattendu, qui est une grève générale qui se développe en 8 jours. C'est le seul pays du monde où ça se produit. Et puis le troisième phénomène, c'est que la situation se décompose et que au sommet de l'État, il y a une véritable crise d'autorité et une crise du régime, on peut dire, un affaissement du régime. Et par-dessus tout ça, il y a ce que j'appellerais, moi, une sorte de crise existentielle de millions de Français qui se traduit essentiellement par ce qu'on a appelé la prise de parole. Selon le mot célèbre, on n'a pas pris le pouvoir en 68, on a pris la parole. Et cette prise de parole, ça traduisait l'envie, le désir de sortir, de parler avec les autres, d'être reconnu par les autres, une soif de dignité, de reconnaissance, etc. Et donc c'est tout ça, 68 à la fois. Donc c'est compliqué à démêler les écheveaux de ces 4 crises qui sont en fait s'entremêlent complètement.
Alors on est 50 ans plus tard, on est très loin de mai 68. Est-ce que vous comprenez que toute cette période soit aujourd'hui, même depuis quelques années, si violemment attaquée ?
Elle est attaquée de manière idéologique, je dois dire. Et vouloir regarder la société française d'aujourd'hui avec les lunettes de 68, non seulement c'est absurde, mais ça mène à la cécité absolue, on ne comprend rien. Donc ceux qui s'emparent de 68 comme un épouvantail idéologique pour dire c'est le début de la ruine, de la décadence de la France, etc., c'est un discours idéologique, moi, qui m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est d'analyser concrètement ce qui s'est passé, ce que ça a provoqué.
Vous estimez, vous, effectivement, que heureusement, finalement, qu'il y a eu mai 68, en tout cas pour la société française.
Au fond, c'est quoi 68 ? Pour moi, c'est l'épicentre d'un mouvement qui démarre au milieu des années 60 et qui va à peu près jusqu'au milieu des années 70, un mouvement de libération de la société française. Elle se déboutonne, une revendication de liberté sexuelle qui est très importante, de rôle des femmes dans la société. Enfin, tout ça, c'est charrié par 68 et donc, et finalement, a eu des effets positifs qui se sont traduits par la loi. Après, que ce soit la loi Simone Veil sur l'IVG, la loi sur le divorce qui a fait voter Giscard d'Estaing, etc. C'était prendre acte que la France était un pays qui avait pris un coup de jeune et qu'il fallait en tenir compte.
Alors pour terminer, hein, vous qui avez été un témoin hein, justement des événements de mai 68 et qui avez même participé, alors les pavés qui volent contre les CRS, hein, les barricades érigées, la répression, qu'est-ce qui vous reste comme image 50 ans plus tard?
Ce qui reste quand même et qui est très difficile à faire comprendre, c'est l'espèce de sentiment d'exaltation, d'ivresse qui a gagné, pas simplement la Sorbonne, mais la société française. Quand vous avez moins de 20 ans et vous voyez des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes dans la rue, comme ça, c'est des moments qu'on ne vit pas plusieurs fois dans une vie.
Patrick Rothman, qui a publié un livre, Les années 68, et une BD, La veille du grand soir. Quelques planches, vous pourrez les retrouver sur notre page Facebook.
Zusammenprall der Generationen. 1968, in einem Jahr weltweiter Jugendproteste, rebellieren auch in Deutschland die Studenten unter ihrem Wortführer Rudi Dutschke.
Comme le disait Patrick Rothman, hein, c'est toute la jeunesse européenne qui gronde en 1968. L'Allemagne connaît également son mouvement étudiant, particulièrement important à Munich en Bavière. Pour les étudiants, il s'agit alors de s'en prendre au conservatisme de la société et de demander des comptes sur le passé trouble de leurs aînés. Pauline Curté a rencontré un journaliste qui s'est retrouvé au cœur de ces événements il y a 50 ans.
Les étagères de l'appartement munichois de Karl Stankiewicz, aujourd'hui âgé de 91 ans, débordent de livres, de DVD et de souvenirs de ses voyages partout dans le monde. Mais il ne lui faut pas longtemps pour retrouver des documents qui lui sont chers, des archives de son travail mené en 1968. À l'époque, Karl Stankiewicz est journaliste, c'est le correspondant munichois de plusieurs grands quotidiens allemands. Il a vécu au plus près les événements de mai 68. Il raconte.
Munich alors était la plus grande ville étudiante d'Allemagne. Il y avait environ 100 000 étudiants répartis dans plusieurs universités. Beaucoup de lycéens ont également pris part au mouvement. En revanche, contrairement à ce qui s'est passé à Paris, le mouvement n'a jamais vraiment débordé en dehors de ces cercles. C'était une révolte d'étudiants avant tout.
En avril et mai 68, les étudiants munichois manifestent quotidiennement dans les rues de la ville avec plusieurs mots d'ordre que résume Karl Stankiewicz.
Les étudiants scandaient un slogan qui s'en prenait au caractère trop conservateur de leurs professeurs et à leur passé trouble de l'époque nazie. Ils voulaient aussi plus de liberté. Mais je pense que c'est surtout la situation internationale qui a lancé le mouvement. Tous les jours, des nouvelles sur les atrocités du Vietnam arrivaient jusqu'à Munich et cela révoltait les étudiants.
Le 11 avril 1968, à Berlin, le leader du mouvement en Allemagne, Rudi Dutschke, est victime d'un attentat. Il se fait tirer dessus par un extrémiste et ne survit qu'après une longue opération qui lui laissera de grosses séquelles. Pour les étudiants allemands, le vrai responsable de cet attentat est le groupe Springer, qui publie notamment le journal Bild, dont la ligne éditoriale s'oppose alors violemment aux manifestants. Cet événement aura une conséquence dramatique à Munich. Lors du week-end de Pâques, deux personnes perdent la vie. Karl Stankiewicz se souvient.
Des milliers d'étudiants se sont rendus devant les locaux munichois de Springer. Ils voulaient tous dénoncer la politique réactionnaire du groupe. Bref, la situation s'est tendue, des étudiants sont rentrés dans l'immeuble et à l'extérieur, des projectiles ont commencé à voler. Un photographe qui travaillait pour l'agence AP et un étudiant ont été frappés par des projectiles. Ils sont morts peu après.
Malgré cet événement dramatique, le mouvement munichois est largement resté pacifique. Pour Karl Stankiewicz, c'est en partie dû à la stratégie de la police.
Les années précédentes, il y avait eu quelques affrontements entre la police et des étudiants, souvent violents. Le nouveau maire de la ville s'est dit que ça ne pouvait pas durer et il a nommé un nouveau chef de la police. Ce dernier a développé une toute nouvelle politique. En 68, au lieu de chercher l'affrontement avec les manifestants, les policiers se mêlaient à eux. Dans les défilés, vous pouviez voir des officiers en uniforme marcher aux côtés des étudiants. Et lorsque la situation se tendait, il dialoguait.
Situation. En 2008, Karl Stankiewicz a voulu revenir sur ce mouvement qu'il avait tant marqué. Il a retrouvé des témoins de l'époque pour écrire un livre sur le sujet et parler avec eux des conséquences qu'a eu le mouvement sur la société allemande.
Clairement, après 68, les choses ont changé. Nous n'étions plus dans la société conservatrice de l'ancien chancelier Adenauer. Et cela reste l'un des événements les plus importants que j'ai eu à couvrir dans toute ma carrière, sans compter bien sûr la libération de Munich du nazisme en 1945.
Et pour que ces événements ne tombent pas dans l'oubli, les médias bavarois ont publié cette année témoignages et photos de l'époque. Une façon de rappeler aux habitants de Munich qu'il fut un temps où leur ville vivait au rythme des slogans révolutionnaires.
Des chansons révolutionnaires, des slogans, il y en a eu aussi en Italie. Le mouvement étudiant va être surnommé là-bas le mai rampant. En raison de sa durée, avant de céder la place aux années de plomb et au terrorisme. Mais l'épisode le plus marquant de cette révolte sera celui de la bataille de Valle Giulia, le 1er mars 68, Cécile Debarge.
Engoncés dans de longues redingotes noires, casques sur la tête et matraques au poing, des centaines de policiers montent la garde devant la faculté d'architecture de Rome, qui se trouve à Valle Giulia, au cœur de la capitale italienne. Quelques jours plus tôt, fin février 1968, ils ont évacué des centaines d'étudiants qui occupaient l'université. En grande partie sympathisants d'extrême gauche, ils en avaient fait un lieu d'événements culturels et de débats. Ce 1er mars 1968, bien décidés à investir de nouveau les locaux desquels ils ont été chassés, près de 4000 manifestants se réunissent et se présentent donc devant les policiers. La police les charge, les étudiants, eux, s'arment de bâtons et de pierres et répliquent. S'ensuit une confrontation ultra-violente dont l'une des images les plus marquantes est celle d'une voiture retournée sur le toit, en flammes, en train de brûler à côté d'un camion de police. À la fin de la journée, on compte près de 400 blessés, dont une centaine de policiers. Tout en provocation, le célèbre italien Pasolini écrit un poème publié le lendemain dans le Corriere della Sera. À Valle Giulia, hier, il y a eu un fragment de lutte de classe, écrit-il, et vous, très cher, bien que du côté de la raison, vous étiez les riches, tandis que les policiers, qui étaient du côté du tort, étaient les pauvres. Si Pasolini soutenait bien sûr les étudiants, il était un partisan d'une lutte unifiée au sein d'un seul et même parti politique, le Parti communiste italien. Sur l'un des murs de la faculté, après la bataille, une photo de l'époque a immortalisé un graffiti qui sonne désormais comme une prophétie. Villa Giulia n'est que le début. 50 ans plus tard, ces affrontements sont considérés comme le point de départ du mai rampant, un terme qui désigne l'élargissement de la contestation à tout le monde ouvrier et qui durera jusqu'à la fin des années 70 en Italie. Cet événement a notamment inspiré à Paolo Pietrangeli sa chanson « Valle Giulia ».
Les revendications ont une autre tonalité en Europe de l'Est du côté du bloc soviétique. La jeunesse veut respirer un peu d'air démocratique. Alors en mai 68, nous sommes en plein printemps de Prague, en Tchécoslovaquie. Le Slovaque Alexander Dubček a lancé depuis janvier l'expérience du socialisme à visage humain. Une expérience qui sera écrasée au mois d'août par les chars soviétiques. Un demi-siècle plus tard, Alexander Dubček n'a pas bonne presse. Il est qualifié de faible et naïf. Pas sûr que le biopic qui sort ces jours-ci en Slovaquie change la donne, Alexis Rosenzweig.
Le premier biopic consacré à Alexander Dubček est sorti le mois dernier en Slovaquie et cela ne suffira sûrement pas à redorer le blason de l'ancien premier secrétaire du Parti communiste. 26 ans après sa mort, Dubček vient même d'être décrit comme un trouillard qui a fait dans son pantalon par l'actuel président de la République tchèque, Miloš Zeman, jamais le dernier à employer un langage fleuri. L'historienne Muriel Bleff travaille à Prague. à l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires.
Il faut comprendre qu'il a mené le pays dans le mur par le fait que il n'a apparemment pas du tout compris la position des soviétiques. Lui-même étant un communiste qui avait grandi en URSS, c'était tellement, pas dogmatique, mais il croyait tellement au communisme qu'il ne pouvait même pas imaginer que ses camarades soviétiques le trahissent. Et on lui a reproché, je pense à juste titre, d'avoir été extrêmement naïf. Et puis, il y a deux éléments qu'on oublie complètement à l'Ouest, mais que les Tchèques savent bien, eux, c'est que après 68, c'est lui qui a tout défait ce qu'il avait fait. Et puis surtout, il a signé la capitulation. J'oubliais un petit élément. Non seulement il l'a fait, mais il l'a expliqué au peuple tchécoslovaque en pleurant à la radio, ce qui n'était pas vraiment glorieux, disons.
Vážení posluchači, prosím, abyste mi preminuli, ak tu a tam sa prejaví nejaká prestávka.
Dubček, avec des trémolos dans la voix à la radio en 68, cette image de pleurnichard va lui coller à la peau, d'autant qu'après la chute du communisme en 89, il espère bien jouer un rôle de premier plan, mais c'est Václav Havel qui deviendra président. Là encore, il va y avoir quelques larmes. C'est ce que nous avait raconté Václav Havel il y a une dizaine d'années.
C'était quelqu'un de très gentil et aimable. D'ailleurs, au début, j'étais même favorable à ce qu'il devienne président. Mais beaucoup de Tchèques et surtout des Slovaques étaient contre lui. Il avait tendance à avoir un discours assez confus et puis il avait aussi tendance à pleurer. À chaque fois, il faisait des compromis qu'il regrettait, ensuite en pleurant.
En Europe de l'Ouest, et en France en particulier, Alexander Dubček conserve une très bonne image, celle d'un homme qui n'a pas pu démocratiser son pays à cause des soviétiques. Notre regretté collègue Jiří Slavíček, lui-même parti de Prague en France en 1968, avait pu accompagner Dubček dans les rues de Paris en 1990.
On est passé à côté du Panthéon et on est allé dans la rue Mouffetard. Et il y avait un garçon de café qui a enlevé son t-shirt, il a pris le marqueur, il a demandé « Monsieur Dubček, pouvez-vous me signer ça ?» Moi, je trouve terrifiant qu'il a fallu se rendre compte de la chose totalement ridicule, puisque quand il a dit qu'il faut un socialisme à visage humain, il a reconnu que c'était un monstre. Mais pourquoi, diable, donner un visage humain à quelque chose d'invivable, de salaud, de meurtrier ?
La tombe d'Alexander Dubček se trouve à Bratislava, en Slovaquie. En Tchéquie, lui a été érigé un discret monument au bord de l'autoroute, près d'une station-service, là où un accident lui a coûté la vie.
En juin 68, c'est au tour de la Yougoslavie de voir les étudiants descendre dans la rue. Très vite, le régime socialiste du maréchal Tito étouffe la rébellion et tente d'effacer les images. Seule subsiste celle tournée par un tout jeune documentariste, Selim Ercilnik, devenu depuis un monstre sacré du cinéma des Balkans, son portrait avec Simon Rico.
C'est un jeune homme de 75 ans qui sourit comme si c'était la première fois qu'il tenait une caméra. Et pourtant, Selim Ercilnik est une légende du film documentaire, reconnue dans le monde entier pour son cinéma très engagé. En juin 1968, Selim Ercilnik a 25 ans, une caméra et déjà pas mal de bagou quand il filme, au milieu de la foule, la révolte des étudiants de Belgrade. La jeunesse yougoslave dénonce alors les dérives bureaucratiques du régime socialiste. Ces images sont les seules, ou presque, à avoir survécu à la censure par un heureux hasard. Selim Ercilnik a dû attendre de revenir dans sa petite ville de Novi Sad à 150 km au nord pour développer ses rouleaux de pellicule pendant que tous les autres films étaient saisis. Membre de la vague noire, l'avant-garde du cinéma yougoslave des années 60-70, Selim Ercilnik remporte l'Ours d'Or à la Berlinale dès l'année suivante avec son premier long métrage, Early Works, sur les conséquences de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie. Critique du régime yougoslave, se battant pour plus de démocratie au sein du socialisme, il fut ensuite un opposant résolu au nationalisme serbe de Slobodan Milošević qui conduisit aux guerres des années 80. Toujours révolté depuis 1968, son dernier documentaire Destination Serbistan compte les aventures de réfugiés sur la route des Balkans, avec cette même tendresse pour ses personnages malgré la dureté du quotidien. Le film est en ce moment en tournée en Bretagne.
À la réalisation, il y avait Françoise Grelot et Fabien Mugneret. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr ou sur notre page Facebook, bien sûr. Et demain, nous reviendrons encore sur cette année 68 avec des dissidents ukrainiens de l'époque.